Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Cop Racing à 3 jours d'un match historique pour le Racing et cette demi-finale retour de Coupe d'Europe. Vous êtes au bon endroit pour parler de cette rencontre. On est ensemble pour une heure autour du plateau de Cop Racing. Ce soir, on est ravis d'accueillir Mounir Marzouk et Anthony Levengut. Salut messieurs.
Bonsoir. Salut Mathieu.
Et face de vous, il est seul face à vous, Dominique Lerman. Salut Dominique.
Bonsoir.
Merci à tous les trois d'être avec nous sur le plateau de cette émission. Ce soir, on va revenir rapidement sur le match d'hier quand le Racing a joué et perdu hier à la Méno face à Toulouse de Buzyn. Est-ce que la qualification européenne par le championnat, c'est fini? Point d'interrogation. On va se demander, on va se poser aussi, bien sûr, tous les enjeux, vous donner toutes les clés de ce match face au Rayo Vallecano jeudi soir à la Méno. Coup d'envoi, bien sûr, 21h. On décortiquera cette rencontre pour vous avec tous les ingrédients nécessaires que le Racing devra mettre pour espérer s'offrir une première finale européenne dans son histoire. Vous avez le programme. On est parti. Alors messieurs, on va commencer avant de prendre une voie européenne, commencer par les routes nationales. Le Racing recevait Toulouse hier soir à la Méno, hier fin d'après-midi plutôt. Les Toulousains, c'est compliqué ce soir, se sont imposés 2-1 face à une équipe à nouveau un petit peu renouvelée côté Racing. Le Racing qui avec cette défaite, vous le voyez, est donc toujours 8e de Ligue 1 à 8 points de Monaco, le 6e à 7 de Marseille. Le Racing, on le précise, a bien sûr un match en moins à jouer du côté de Brest mercredi en 8 entre les deux dernières journées de Ligue 1. Petit tour de table déjà très rapide, est-ce que ce retard, messieurs, vous paraît rédhibitoire? Est-ce que le Racing peut combler ce retard? Autrement dit, est-ce que la qualification européenne par la voie du championnat, c'est cuit définitivement? Anthony?
Pour moi, c'est quasi impossible, mais si par hasard on venait à perdre jeudi et à pas aller en finale, là, ça serait branle-bas le combat pour tout le monde, en mode commando pour gagner les trois matchs et essayer compter sur une mauvaise fin de saison de Marseille qui est en train de prendre le pas pour se dire allez on peut peut-être le faire quand même.
on finit le tour de table. Dominique, cuit ou pas cuit? Tu y crois encore?
Je pense pas, non, parce que c'est eux-mêmes qui l'ont décidé qu'on traîne à domicile. Je veux dire, ils ont fait jouer alors que contrairement à hier où c'était annoncé qu'on traîne, j'ai senti beaucoup de spectateurs très déçus parce qu'il y avait un peu tromperie sur la marchandise, parce qu'on disait qu'on jouait encore sur trois tableaux. Or, ils avaient manifestement fait la croix sur, et pour moi, logiquement, mettre au repos pour être en forme contre Nice.
Le match aller contre le...
Mais quand on a vu le match de Nice, on demande s'ils ont bien fait, parce que...
Mounir, pour terminer, tu y crois encore?
Non, je pense que c'est cuit. Effectivement, mathématiquement, tout est possible. Merci. Mais je pense que il va falloir jouer toute cette saison sur les deux matchs. Quand je dis les deux matchs, c'est potentiellement la demi-finale qui
arrive. Un sûr, deux peut-être.
Un sûr et deux peut-être pour la finale après à Leipzig.
Pour être européen la saison prochaine, donc, selon vous, le Racing devra remporter la Conference League qui offre donc un billet à son vainqueur pour l'Europa League la saison prochaine. Seule voie donc a priori pour le Racing, selon vous, pour être européen l'an prochain. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez réagir à cette émission, nous poser vos questions, nous faire vos remarques, réagir à nos commentaires 06 10 82 77 35 par SMS et puis signer vos petits messages. C'est quand même beaucoup plus sympa si on peut vous citer. Anthony, on va revenir quand même sur ce match face à Toulouse avant de développer, mais ça va nous lancer évidemment naturellement sur le match de jeudi soir contre le Rayo Vallecano et ce but de retard que le Racing devra remonter. On a vu une compo à nouveau un peu expérimentale, moins que celle contre Rennes, comme le soulignait Dominique. Tu as été surpris par cette compo où il y a de nombreux cadres au repos. On rappelle, Chilwell n'était pas rentré en jeu, Moreira est rentré à l'heure de jeu, Mavidele, Enciso, El Mourabet et Mega sont rentrés en cours de match. C'était la compo assez logique pour toi, si la priorité, évidemment, est cette demi-finale.
Si j'ai envie d'en rigoler, je peux dire qu'on a fait jouer le groupe élite. Au moins, ils ont fait au moins un match en première division, parce qu'avec la titularisation de Diémé, par exemple, je sais pas quel message t'envoie d'Astro Fofana, mais lui, je pense que même
il est perdu.
Même pour un match amical au fin fond de je sais pas où, il jouera plus. Amogou qui a retrouvé le 11, même lui a dû être étonné parce qu'il avait peut-être prévu ses week-ends jusqu'à la fin de saison. Non, mais c'est vraiment ça. Là, on a vu un match exhibition, mais je trouve une équipe en première mi-temps qui s'en est bien sortie. C'est toujours pareil. Est-ce que Toulouse était pas au niveau ou est-ce qu'au final, cette équipe-là a montré quelque chose, et je dirais plutôt que cette équipe-là a montré quelque chose. Alors, avec ses armes et avec ses difficultés.
Et ses limites, oui.
Et ses limites, tu prends Hojbjerg, on sait qu'il est un peu juste techniquement. J'ai bien aimé l'apport de Oyedele. C'est lui qui est capable de casser des lignes, rapporter du punch. À l'inverse, Diémé, c'était un peu compliqué pour une première titularisation. Mais effectivement, au vu de la première mi-temps, on peut avoir des regrets, puisque en deuxième, on fait rentrer enfin les titulaires. et on se fait avoir par contre le cours du jeu, mais sur tout le monde s'est arrêté sur une potentielle faute sur Enciso, et derrière on prend un ballon en contre qu'on avait pris déjà 5 minutes avant.
On parlera des entrants tout à l'heure, effectivement, notamment ceux qui sont entrés en cours de jeu, notamment d'Emmanuel Emega qui est ressorti blessé en fin de match. Dominique, est-ce que dans ceux que tu as vus dans les titulaires d'hier, il y a des... est-ce que c'est susceptible de bousculer un petit peu la hiérarchie pour le match de jeudi, ou non, elle est figée pour toi?
Alors, paradoxalement, contrairement au match à Lorient, je pense, où les rentrants ont fait la diff et ont permis de renverser, avec un peu de chance, il faut le dire, la vapeur, alors que normalement, s'ils perdaient là-bas comme c'était programmé à 2-0, ben, mathématiquement, il n'y avait plus de chance de revenir, hein, parce qu'on a 7 points de retard et en 9 à prendre. Ben là, et comme on a gagné Lorient, on se relance après avoir mis une croix sur le championnat après Rennes. Donc là, hier, paradoxalement, c'est les rentrants qui ont plombé le match pour moi. Pour moi, l'équipe était plus cohérente, comme l'a dit Anto, en première mi-temps, avec Oyedele qui est à l'origine du premier but, parce qu'il se fait prendre, parce qu'il n'est pas arrière latéral, bon, il se fait prendre alors qu'il n'est pas en retard. Mais le temps qu'il réagisse, qu'il se tourne, l'autre, il est lancé, il part 5 mètres en profondeur. On se fait avoir sur 2 transitions rapides en profondeur. Mais Oyedele, par exemple, était très intéressant parce qu'il cassait les lignes, il passait tout le temps au milieu. Et c'était lui qui amenait le surnombre et qui créait un peu le danger. Donc, à ta question, c'est dur d'y répondre. Les rentrants, que ce soit Moreira, que ce soit Enciso.
On parlera des entrants dans un sens, tu veux bien, juste pour finir sur ce thème, Mounir, pareil, il y a des gens, Oyedele, par exemple, qui pourrait profiter de ce match pour un tremplin pour jeudi.
Non, mais je pense que l'entraîneur. Par l'ur gauche. Oui, non, mais je pense que l'entraîneur, il a déjà son plan pour jeudi. Je pense qu'il a aussi son 11 aussi. Là où je te rejoins, Dominique, c'est que je trouve que, en fait, le plan initial était simple, c'est qu'il met une équipe bis, il fait rentrer les pseudo-titulaires sur les 30 dernières minutes, et puis qui font la diff.
Peu de risque.
Il y avait le 1 partout, l'équipe dite bis a bien tenu.
A fait le boulot.
Et puis, ouais. En fait, ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé à Lorient, qui ne s'est pas passé hier, c'est-à-dire que les mecs fassent la diff, sur la dernière demi-heure, ça ne s'est pas fait, et on s'est fait.
T'inquiète, du coup, effectivement, de voir que ces joueurs qui sont censés être préservés, avoir du punch, préparés, se lancer sur cette fin de match.
Non, parce que jeudi, ça sera une toute autre mentalité. On sera sur une mentalité coupe. Avec une toute autre ambiance, avec un autre adversaire. Non, je ne pense pas que c'est ce qui va potentiellement faire mal, ou en tout cas qui m'inquiète moi pour jeudi, je ne pense pas.
On va passer au cas le plus important peut-être de cette fin de match, peut-être le fait du match même, la blessure d'Emmanuel Emega qui était rentré très tardivement, à 82e minute seulement. Garioni l'a expliqué que le staff médical lui avait dit qu'il avait grosso modo 10-15 minutes pour le préserver, pour l'économiser. Il est resté après une course au sol en fin de match, il n'a pas participé au tour d'honneur avec le reste de ses coéquipiers, on l'a vu marquer la tête dans le maillot. Suspicion, pas de communication encore du club sur la blessure, mais rechute, suspicion forte de rechute aux ischios. Enfin, on l'a vu assez marqué en tout cas en quittant le terrain et le stade par la suite. Inquiétant, très inquiétant.
Alors, vous allez croire que je suis sadomaso ou que j'aime pas le Racing, mais au vu de son retour, je suis limite content qu'il se reblesse dans le cadre d'une future qualification en finale, puisque j'ai l'impression que depuis son retour, le Racing ne sait plus jouer ensemble. Quand tu vois le match du Rayo qu'on commentera après, mais on a usé et abusé de ballons en profondeur pour lui, où il se cachait derrière les deux centraux et il n'a jamais pu toucher un ballon. Donc il n'y a plus de cohérence entre le milieu et l'attaque, chose qu'il y avait avant, et en fait, on joue pour un capitaine qui est plus au niveau. Donc je suis inquiet pour lui.
Devant, c'est une de mes questions suivantes. Est-ce que c'est grosso modo un mal pour un bien? Est-ce que le fait qu'il ait un statut particulier, on a l'impression qu'il faut qu'il joue, alors que le Racing est peut-être, je suis assez d'accord avec ça, un peu moins bon, en tout cas notamment à Madrid, avec lui. Est-ce que quelque part, effectivement, ça donne la perspective d'un schéma offensif plus cohérent jeudi soir?
Totalement. En fait, ce que tout le monde attend et ce que tous les suiveurs du Racing disent, c'est qu'il faut exactement la même équipe que match retour face à Mayence, avec Nanassi en 10 et Enciso. Pourquoi? Parce que Nanassi est un facilitateur. On le voit dans les transitions, il manque d'impact physique, c'est-à-dire en épaule contre épaule, c'est sûr que Nanassi ne va pas chercher à 1m90. Par contre, sur les transitions rapides, Nanassi, il est là sur les 1, 2, 3, etc. Et il facilite, et Enciso a cette capacité de se retourner. Alors, c'est sûr que sur 10 frappes d'Enciso, il y en a 8 qui vont finir sur le parking de la Méno. Par contre, la 10e, la 9e et la 10e, elles vont faire but. Chose qui nous manque là. Là, on cherche, c'est mon avis, on cherche énormément la profondeur avec Emega. On trouve très peu les milieux. Les milieux, jeudi, ont été totalement bouffés. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on balançait devant, donc du coup les mecs reprenaient une vague, et donc du coup le temps de se replacer, etc., ben, on rebalançait devant. À aucun moment ils ont pu un peu poser le pied sur le ballon ou ramener quelque chose de cohérent. Et moi, personnellement, je suis désolé, hein, j'adore Emega et je remercie pour tout ce qu'il a fait, on le verra peut-être plus rejouer, mais je suis très content dans le cadre de jeudi où j'espère vraiment la compo 11 du match face à Mayence, puisque c'est cette compo-là qui va nous faire qu'on va être en finale.
Effectivement, selon la gravité de la blessure, Emmanuel Égal pourrait potentiellement en disputer son dernier match sous le maillot du Racing, puisqu'il est censé partir à Chelsea la saison prochaine. Dominique, c'est un peu sévère peut-être de se dire que c'est un mal pour un bien que ton capitaine, quand même joueur emblématique du club depuis 3 ans maintenant, une des figures hein, clairement de ce nouveau Racing, de ce nouveau projet. Le Racing est-il meilleur du coup avec lui ou sans lui?
Oui, c'est un sacré dilemme. Mais bon, je peux pas être content de sa rechute.
Bien sûr.
J'étais au match à 10 mètres, 5 mètres, 3 mètres. À 3 mètres.
Sur le terrain, tu étais sur le terrain.
Oui, quasiment. Au deuxième rang, derrière l'endroit où il s'échauffe. Je peux vous dire que c'est incompréhensible qu'il se blesse quand je vois la qualité de l'échauffement qu'il fait. C'est hallucinant.
Toi, tu vas au stade, tu regardes l'échauffement.
Le gars, il m'a bluffé. J'ai dit, c'est pas possible, c'est un avion de chasse. Quand il s'échauffe et quand il commence à lâcher les chevaux, mais il va à 200 à l'heure. Il est beau à regarder, c'est que du muscle. C'est vraiment... Et il s'est préparé pour jouer 10 minutes. Alors, c'est là où il y a l'incompréhension. Je comprends pas. Comment un staff médical, d'après Gary O'Neill, il puisse dire... Le gars, il peut jouer 15 minutes, pas plus. Alors, il a joué 17 et il s'est craqué à la 17e. Donc, ils sont vraiment très, très forts. Mais pour moi, jouer... S'il peut pas jouer 15 minutes, je le fais pas jouer.
Je fais une parenthèse un peu désagréable. C'est bien la peine de voir virer tous les docs et les kinés du Racing historique pour un staff anglais avec des datas non plus finir que le mec se blesse 4 fois dans la saison, quand même.
Et méga, même doué, tous ceux qui jouent pas depuis longtemps parce qu'ils vont avoir un problème de rythme. Tu peux pas, après un mois sans arrêt, en étant arrêté, retrouver comme ça du jour au lendemain. Parce que tu t'appelles Doué ou Barco, le rythme que tu avais avant. Donc pour moi, ces joueurs, ils devaient débuter contre Toulouse, les laisser une demi-heure, une heure, une mi-temps, une heure, et après les mettre au congélateur, là, pour en récupération, en cryo, pour qu'ils récupèrent totalement pour jouer. Non, ils jouent 10 minutes, je ne sais pas pourquoi. Quand je l'ai vu s'échauffer, à contrario d'Omo Babidele, qui s'est échauffé en regardant le match à 2 à l'heure, j'ai dit à mon voisin, j'ai dit, celui-là, s'il rentre, il se blesse. C'est pas possible qu'il va rentrer. Et quand il a sorti Doucouré à 8 minutes de la fin, là aussi, il va savoir. Si tu le sors, tu le sauras une demi-heure de la fin. À 10 minutes de la fin, il fait rentrer Omo Babidele, qui est, moi, beaucoup plus fautif que Huxberg, parce que c'est facile de tomber tout le temps sur Huxberg. Mais Omo Babidele, il est rentré à 2 à l'heure. Il est rentré à 2 à l'heure. Et je me suis dit, il va se blesser sur la seule profondeur où il a dû aller et où il s'est fait piéger. Voilà, sur la pseudo où il n'y a rien du tout, sur Enciso.
Il s'est économisé, lui.
Ben, il s'est économisé, mais il ne faut pas les faire rentrer, alors ça ne sert à rien, c'est ridicule.
Christian, il est un peu d'accord avec toi qui nous écrit, qui nous dit « Je crains que les joueurs soient cramés ». Est-ce qu'il y a un petit peu de ça, Mounir ? En fait, on sent qu'on est au 50e match hein, cette saison. Alors, à contrario, on mettra quelques chiffres sur la saison d'Emmanuel Emega, mais effectivement, c'est 8 titularisations seulement pour le capitaine du Racing cette année. Quatrième temps de blessure pour lui.
Pour ceux qui ont joué tous les matchs, effectivement, on peut se poser cette question et c'est légitime de se la poser parce qu'aujourd'hui, on est à la course au match. On veut que des matchs. On est plus sur la notion de qualité, même si on a eu un match exceptionnel la semaine dernière en Ligue des Champions, mais on est plus là-dessus. En fait, on cherche à multiplier les matchs et la prestation ou la récupération des joueurs, elle importe peu. En fait, c'est le constat qu'on fait. Alors, le côté un peu foot business, mais c'est ce qu'il en ressort. Mais Emega, on n'est pas là-dedans, parce qu'il a fait 8 matchs, donc on ne peut pas dire qu'il soit...
8 titularisations, oui, 18 matchs.
Qu'il ne soit pas cramé, je ne pense pas qu'il soit cramé. Je pense que là, c'est une défaillance musculaire, et puis c'est tout. Pour moi, il n'y a rien de choquant là-dedans.
Pas de Panicelli, pas d'Emega, on est Fofana dont tu le disais lui-même qu'il est perdu depuis qu'il est arrivé, en fait il n'est jamais complètement arrivé au Racing, l'attaque du Racing est un immense désert Anto.
Ouais mais en fait je le pensais aussi, mais vu ce qu'a montré Enciso en 9, je le trouve même plus intéressant en 9 qu'en milieu relayeur Enciso, il est percutant, il est virevoltant, ce qui lui manque juste c'est un peu de hauteur. Parce que ben sur les ballons en profondeur ou sur les duels avec l'attaquant, sur les dégagements, il essaye de sauter, mais il se fait prendre à chaque fois. Mais effectivement, pour les 3 derniers matchs, faut escompter que Enciso se blesse pas, parce que sinon, effectivement, l'attaque est totalement en friche. Et là, tu repars sur un bricolage complet. On en est déjà un sur bricolage, mais je trouve que cette équipe-là, vu ce qu'elle a déjà montré avec N'Sizo en 9, Nanassi en 10, Godot d'un côté, elle est cohérente. Elle est cohérente. Il y a du mouvement, il y a de la percussion, chose qu'on ne retrouve pas. Là. On retrouve un peu, sur le match de Toulouse, la seule percussion qu'on a vue, c'est un peu Oye Dele à un moment donné avec N'Sizo ou Doucouré sur le but. C'est le seul moment rapide qu'on a vu. Sinon, on a vu du foot hand pendant 87 minutes. Très lent dans les transitions, on cherche la faille, mais en même temps, on laisse notre équipe se replacer, l'équipe en face se replacer. Donc ouais, effectivement, la tactique du Racing dans tous les sens du terme. Quoi.
La tactique, en deux mots. Pour clore sur ce sujet, regardez ce chiffre qui prouve le poids tout simplement aussi, même si Emmanuel Emega a relativement peu joué cette saison, 8 titularisations seulement, mais il pèse quand même 8 buts si vous les additionnez à ceux de l'autre grand absent, qu'on finit presque par oublier, Joaquin Paniccelli, ce chiffre qui illustre évidemment le poids des attaquants du Racing qui pèsent à eux deux, Joaquin Paniccelli et Emmanuel Emega, 28 buts à eux deux, toutes compétitions confondues. Cette saison, le Racing alors, est privé du premier qui en est à 20, toutes compétitions confondues, et potentiellement d'Emmanuel Emega, comme dit, qui en pèse 8, deux des trois meilleurs buteurs du Racing cette saison. On a commencé du coup à anticiper la suite. On va passer au troisième thème de cette séquence pour parler déjà de ce qui nous attend, de ce qui attend le Racing jeudi soir à la Méno. Coup d'envoi bien sûr 21h contre le Rayo Vallecano. Un petit but de retard à remonter du match aller. Se pose du coup la question, messieurs, de la composition de cette équipe, avec ou sans Emega, c'est évidemment un paramètre. Et un vieux débat, Fabien Carlet qui était à ta place la semaine dernière, lui qui est un fan en tout cas qui compte sur Nanasi en cette fin de saison, téléspectateur aussi, pourquoi Nanasi qui apporte un plus à chaque match et qui est régulier n'est pas titulaire indiscutable? Il attend ce téléspectateur qui n'a pas signé son message, c'est dommage, on le salue tout de même. Messieurs, peux-tu parler de Nanasi, de N'Sizo devant, il y a toujours le match Godot, possibilité Godot, comment Dominique tu organises ça dans la perspective de jeudi, sachant que le challenge c'est de remonter un but à cette équipe du Rayo alors que le Racing a été complètement inoffensif jeudi dernier, 0 tir cadré, 5 frappes seulement en 90 minutes.
Mais je te rejoins un peu à la question que tu posais tout à l'heure à Anto, et c'est pas mon avis, mais je me le fais mien, l'analyse de Frédéric Antonetti, tu as dû le voir dans la presse, vous avez dû la lire aussi, qui a trouvé, qui était à Balocano, à Madrid, et qui a trouvé l'équipe très très émoussée, en particulier au niveau offensif. C'est vrai qu'ils étaient, pour ainsi dire, quasiment inoffensifs pour en ce qui concerne ceux qui ont joué devant. Donc, émoussé, c'est sûr. Après, comment jouer? Il n'y a plus beaucoup de choix. Ça me paraît évident qu'il faut débuter avec ce qu'a dit Anto. Hein. N'Sizo 9, bon, c'est pas ma tasse de thé.
Mais t'as pas mieux.
mais il n'y a rien d'autre. Enfin, Diamé, c'est dommage qu'il n'ait pas... parce qu'il est, il est intéressant, il est intéressant, il est à regarder, je pense. Il m'a plus que Fofana. Donc c'est dire. Et on a vu au Red Star où le Matumbo, il a mis 2 buts, qu'à 18 ans, tu peux marquer des buts. Il aurait pu, pourquoi pas, on aurait pu avoir un scénario complètement improbable avec le gamin qui commence premier match et qui marque 2 buts. Ça, c'est déjà vu, ça, c'est pas fait. Pourtant, il avait 2 occasions. Après, devant Godot, comment ils vont jouer? Ils peuvent être très bons, ils peuvent être passer complètement au travers, les mêmes Godot, Nanasi et N'Sizo, ils peuvent être complètement transparents. Je veux dire, contre Nice, j'ai aussi eu la chance, et le parallèle, il est important, parce que on les a fait souffler.
Parallèle de
on
match les... à pression aussi.
Voilà, match à pression pour des jeunes où ils jouent. Maintenant, avant, on voulait encore nous faire croire qu'on jouait sur 3 tableaux. Maintenant, il n'y a plus qu'un tableau. Il n'y a plus qu'un tableau, ça veut dire que la pression, elle est 3 fois plus forte encore, 3 fois plus lourde sur les épaules de gamins qui vont jouer leur saison là-dessus. Parce qu'imaginons avec le troisième plus grand investissement à l'intersaison, terminer 8e, 9e ou 10e, avec pas de finale de Coupe de France et pas de finale de Coupe d'Europe, c'est peut-être maintenant, pour l'instant, à l'heure actuelle, on met tout ça sur le tapis, on est à quelques jours d'un événement historique. Parce qu'il y a 2 équipes françaises qui vont jouer 2 finales de Coupe européenne, c'est juste...
Faut se pincer, demi-finale.
Enfin, qui sont potentiellement en lice pour aller jouer en finale, et on espère que les deux se qualifient, et ça serait quand même complètement historique. Donc, mettons tout ça sous le tapis, tous les petits couacs, les mauvaises gestions des uns et des autres.
En attendant, il faut faire une équipe quand même avec tout ça.
Ouais, venir. Bah, elle est faite, hein, c'est celle de ma chance. Ça.
C'est le seul avantage d'avoir beaucoup de blessés, c'est que du coup, les choix sont plus simples.
Ouais, tu fais plus des choix par la performance.
Marco, Doué vont rentrer.
Oui, voilà.
Combien de temps ils vont tenir?
Exactement. Et puis, l'attaque sera avec un faux neuf, un Tiso. Est-ce que, là, je rejoins, on parlait d'Emega tout à l'heure. En fait, Emega, c'est pas le fait de le faire jouer, ben, l'équipe joue moins bien, mais en fait, il t'offre une option supplémentaire. En fait.
Tout à fait.
Donc la notion de profondeur, elle est intéressante avec Emega. Mais sur ce que j'ai vu du match de jeudi soir, je suis pas persuadé qu'il va servir. C'est une équipe très agressive en face. Il faut beaucoup de mouvement. Et Enciso peut apporter ça avec Nanasi, un peu plus de technicité. Parce que
ils vont t'attendre, toi.
Très honnêtement, il n'y aura pas du tout de profondeur. Donc un Emega apte ou pas, ça n'aurait pas forcément changé grand-chose. J'ai trouvé que c'était une équipe. Le Racing, en tout cas, est parti à Madrid dans l'idée de ne pas perdre. On n'a pas essayé d'emballer le match. Je trouve que même le 1-0, on a presque l'impression qu'en fait, oui, mais vous inquiétez pas, à la méno, on fait le travail. Ouais, mais là, on est en demi-finale de Coupe d'Europe. Attention, parce que, alors, je sais que le public de la Meno est le facteur X, mais on n'aura pas des matchs comme contre Mayence toutes les deux semaines, parce que, qu'on le veuille ou non, les adversaires changent et la magie s'estompe aussi par le temps. Donc, non, mais je pense que l'animation offensive, ça va être ça. Sur l'animation défensive, on aura deux courés au moment Bidélé et puis Chilwell à gauche et puis à droite, ça sera sans doute Doué.
Alors, Doué, petit bémol, je te pose la question. Quand même, dernier match à Mayence le 9 avril, ça fait un mois quand même.
Ouais, mais je suis pas. Moi, je le lance. Il peut pas prendre. C'est un super joueur. Et puis quand il est là, l'animation dans le couloir, elle est totalement différente. Donc,
et devant. Et
après, est-ce qu'il tiendra avec les 90 minutes? Ça, c'est un autre débat.
Peut-être pas. 120, si nécessaire.
Bon, après le fait d'être à droite, même s'il sort, on a quand même quelques options. Donc, je pense que pour
Ouattara était bien.
Ouattara était bien.
Allez, on va continuer de décortiquer dans quelques instants là, cette demi-finale de Coupe d'Europe qui attend le Racing, match décisif évidemment jeudi soir. Il faudra remonter ce but, en marquer au moins pour aller en prolongation, voire au tir au but, évidemment, pour se qualifier, quel que soit le score naturellement. Avant une courte pause, le carton rouge de l'équipe des chroniqueurs de Cop Racing, ce qui n'aura pas plu sur ce match, ou en tout cas sur cette séquence, c'est tout de suite. Anto, pour ouvrir le bal, ton carton rouge de ce lundi.
Sur le match de Toulouse, si on fait uniquement le match de Toulouse et pas le match de jeudi prochain, sur le match de Toulouse, c'est le public en tant que tel. Pas que le COP, le public en tant que tel. On a annoncé plus de 30 000 spectateurs. Là, je pense que c'est le même qui compte les manifs. Hein, parce que un siège sur deux était libre.
Côté police ou côté
Un siège sur deux était libre, mais vraiment, s'il y avait 20 000 spectateurs, c'est bien.
200 packs à la revente, beaucoup d'envois.
S'il y avait 20 000 spectateurs, perso, je pense que c'est bien. Parce qu'en regardant tous les trous qu'il y avait, j'ai jamais vu ça dans la nouvelle configuration de la Meno. Après, effectivement, c'est annoncé que l'équipe allait tourner. Après, quand t'aimes le Racing, même pour aller voir le groupe élite ou l'équipe B, tu viens supporter ton équipe quoi qu'il arrive. Voilà, je suis un peu déçu de ce comportement-là. Alors, effectivement, il y avait grand week-end de mai et peut-être les gens sont partis.
Le public du Racing, de la Meno, sans bourgeoise un petit peu.
Ouais, comme je
l'ai
dit.
Trop gâté cette année.
Ouais, vraiment.
Tu l'as déjà dit.
Ouais. Je l'ai déjà dit, ouais, et c'est un fait. Et j'en appelle aussi à jeudi, profitez de ce moment. Profitez de ce moment, on le vivra peut-être plus jamais parce qu'on nous dit on est blouco, on a de l'argent, maintenant on aura ça souvent. Mais en fait, non, regardez Marseille, ils ont de l'argent, Lyon a de l'argent.
Tu n'es pas sûr d'être en Coupe d'Europe l'an prochain.
Plus tellement.
Dominique, ton carton rouge de cette semaine.
Le carton rouge, c'est sur l'état d'esprit de certains, souvent des Sud-Américains, des Argentins, pour être encore plus précis. Alors, je ne fais pas du tout le parallèle avec les nôtres, même si Barco commence à nous énerver sérieusement. C'est Medina et Balerdi à Marseille. Enfin, j'avais vu Wahi qui va très vite, qui va à 100 à l'heure. Alors lui, il était. Et après, il joue à Marseille en championnat. Il va là-bas, c'est un ex-Marseillais. Les deux, ils n'ont pas arrêté pendant tout le match de le massacrer. Et c'est là où il termine avec cette Panenka exceptionnelle. Enfin, faut le faire alors que tout le stade siffle contre lui. Je veux dire, Balerdi, c'est pas la première fois. Si vous regardez pendant tout un match, il s'amuse à mettre des coups, à fracasser verbalement. Alors, on me dit que s'ils ont ça dans leur gène, les Sud-Américains, que c'est comme ça qu'on joue au foot. Donc, fils de pute, c'est plus un surnom, c'est rien. On peut le dire. Un noir, on peut.
Voilà, mais tout ça, c'est pas normal. Le grand ami d'Emmanuel Emmanuel. méga lors d'un match à Marseille il y a
C'était énervant comme tout. Et Balerdi, ça devrait être éradiqué du football. Des comportements comme lui. Parce qu'en plus, après, il est ridicule. Il n'est pas à la hauteur de ce qu'il estime.
Sportivement, effectivement, tu n'es pas.
Ils ont un boulard, c'est incroyable. C'est insupportable.
Mounir, pour terminer, ton carton rouge de ce lundi soir.
C'est surtout un aspect plutôt technique, tactique. C'est sur le match, c'est surtout la gestion de la profondeur et de la transition où sur un pauvre ballon long on arrive à éliminer deux centraux et tu parlais, on parle d'Augsberg, je rejoins Dominique, on lui tape toujours dessus. Alors ouais, c'est vrai qu'il n'est pas impérial non plus, mais Omo Babidele qui rentre, il mesure 1m95 et puis il arrive à se faire avoir sur en milieu amateur. On dit que quand un joueur n'est pas cadré, il faut gérer la profondeur, il faut qu'il y en ait qu'un qui soit et puis l'autre gère la couverture. C'était pas du tout le cas sur le deuxième but. Donc ouais, c'était surtout
ce que ça c'est là. Inquiétant pour jeudi soir où on se doute bien que le Rayo va nous attendre en mettant le bus a priori dans sa surface et où forcément ils vont, on imagine, jouer en contre si on sait pas gérer ce genre, enfin si on a du mal à gérer ce genre de situation.
En tout cas ça peut nous mettre en danger. Ça, c'est certain. Si on n'arrive pas à gérer parce que c'est les transitions qui nous font mal. Hein. Mm-hmm. C'est les transitions. Et puis, on est sur un. On est sur un
profil du match
de
jeudi. Il y a plein
deux ballons longs de Cazeres.
Donc, il y a de quoi s'inquiéter. Après, on a Doucouré qui lit très bien le jeu aussi. Sur le placement, c'est quand même autre chose que Augsberg. Il faut quand même le reconnaître. Donc, moi, je pense que ça peut nous mettre en danger. Ça doit nous alerter aussi, parce que des buts comme ça, ça doit. Je pense que l'entraîneur va mettre l'accent sur cet aspect-là pour éviter justement de se prendre des contres, parce que c'est comme ça que ça va se passer.
Il y a quasiment interdiction de prendre un but, évidemment, jeudi soir. Merci messieurs, vous ne bougez surtout pas. On fait une très courte pause dans ce Cop Racing. On revient dans quelques instants. On va continuer évidemment de parler de ce match de jeudi soir côté strasbourgeois, côté espagnol aussi. Cette équipe du Rayo qu'on a peut-être surpris plus d'un lors du match aller est-elle prenable à la Meno? Le Racing peut-il s'ouvrir les portes de la finale? Nos réponses dans quelques instants. Vous ne bougez pas. J-3 avant cette demi-finale. Retour de Ligue Conférence pour le Racing qui peut s'ouvrir les portes d'une historique finale européenne à Leipzig. Anthony nous a donné rendez-vous au mois d'août hein, déjà en se disant cette Coupe d'Europe elle est pour le Racing, c'est complètement notre coupe, tu as toujours ton
et j'en reste persuadé, moi j'y suis hein,
voilà. Il sera quoi qu'il en soit.
Quoi qu'il en soit, alors j'espère que ça sera le Racing mais j'en ai aucun doute. Je le dis depuis le mois d'août, depuis Brøndby.
Rendons à César.
Donc voilà, donc je lèverai la coupe avec les joueurs.
Et donc qu'est-ce qui te rend optimiste du coup parce qu'au final, il n'y a qu'un but de retard.
Oui, non, effectivement, il n'y a qu'un but de retard. Et tu me relances sur un sujet que j'ai envie d'insister, c'est notre capacité à rendre les soirées magiques à la Meno. On a eu un public exceptionnel face à Mayence. Je pense que là, et là j'en appelle aux supporters, sur ce match-là, les 15 minutes, les gars, ça fait 2 ans, on le sait, on connaît maintenant le projet de multipropriété. Le message, je pense, est passé. Au niveau national, il y avait même la ministre des Sports ce week-end au match, donc elle a vu la banderole, le message est passé. Mais je pense que sur ce match-là, la dimension politique, il faut la mettre de côté. Parce que, je leur dis, on n'est pas sûr d'en revivre. Personne n'est sûr. Ce n'est pas une science exacte, le foot. Paris a mis longtemps à arriver à ce niveau-là. Nous, ça se trouve, c'est la prochaine fois, ça sera dans 40 ans. Et on va pas. Et le plus important dans un match, pour moi, surtout dans ces matchs-là, c'est le premier quart d'heure. Et c'est le premier quart d'heure où on ne chante pas. Et sur le premier quart d'heure, on doit rendre ce que Mayence nous a mis là-bas. Ça doit être un chaudron bleu. Les mecs, comme disaient en 79 les joueurs, on ne pouvait pas perdre parce que quand on rentrait, les autres se chiaient déjà dessus au vu de l'ambiance qu'il y avait à la Meno. Et bien sur ce match-là, ça doit être la même chose. Et le Rayo doit se sentir qu'en fait, ils sont en terre hostile. Et je pense que c'est du fait de l'ambiance, les joueurs vont se mettre au diapason. On n'a pas gagné Nice parce que, moi je prends toujours l'exemple de l'ambiance de Nice, j'ai l'impression que c'était un retour de cuite. On avait tellement fêté qu'en fait, il y avait une ambiance un peu.
Après Mayence, enfin 6 jours même après, après le match de Mayence.
Il y avait une ambiance un peu flottante.
Ouais, puis on se disait que Nice, 15e de Ligue 1, c'est bon, ça allait passer crème. Là, on ne se dit pas forcément que ça va passer crème, même si en fait, cette équipe dominique du Rayo, elle aurait été solide au match aller, elle a été agressive, c'est pas non plus brillantissime. Le Racing ne perd que 1-0, même si peut-être l'addition aurait pu être plus lourde. Elle est tout aussi inexpérimentée que le Racing à ce niveau-là.
Tout à fait. Tout à fait. Donc, il rêve aussi. Il rêve autant que le Racing. Alors, un match de foot, on est toujours entre doute et espoir. Mais il faut avoir les deux. Contre Nice, ils n'avaient pas le doute. Et c'est ça, c'est grave. Parce qu'il n'y a jamais rien d'acquis en foot. tout peut arriver.
Mauvaise approche mentale.
Je l'ai vu il y a trois jours à Dijon avec Châteauroux, où Châteauroux, à mon dernier, ils sont allés gagner à Dijon,
qui
manquait un point pour monter. Donc en foot, et c'est ça qui est magique, tout est possible. Après, s'il y a effectivement, et je te rejoins complètement, plusieurs raisons, on joue à la Méno, on l'a fait contre Mayence, le public qui doit être, c'est un truc historique, etc. Je te rejoins, il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent éventuellement nous faire douter. On n'a pas Imega, on n'a pas Panichelli devant, c'est quand même 28 buts, Mathieu l'a dit. On a des joueurs qui reviennent, est-ce qu'ils ont le rythme? Et surtout comme tu l'as signalé Mathieu, il y avait un petit raillot à l'aller, mais il n'y avait pas le Racing en face. Malgré le petit rayon à l'aller, on n'a pas vu le. On n'a pas vu le Racing. Et ils auraient pu. J'ai rien vu. Moi, j'ai rien vu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont envie de faire un effort ou comme contre Nice, ils veulent essayer de se qualifier 1-0 en mettant le moins d'énergie dans ce match en demi-finale? Là, c'est de nouveau une demi-finale. Il n'y a pas de calcul à faire. Il faut jouer pied au plancher dès la première minute. Parce que le grand danger, et c'est là où je dis, il y a des doutes. Le grand danger, on aurait pu prendre 2 ou 3-0. Sur quoi? Sur 3 coups de pied arrêtés.
C'est bien, tu me le fais tout de suite.
3 coups de pied arrêtés, voilà.
On va en parler parce que c'est effectivement un point de faiblesse du Racing ces derniers temps.
On manque de taille.
On manque de taille, c'est ce que Garioni l'a soulevé lors du match à Lorient, hein, où le Racing encaisse un but sur un corner, ce qui était produit à Mayence notamment, où le Racing avait beaucoup souffert en Allemagne, il a souffert de la même manière à Madrid la semaine dernière. Vous dire, c'est un point qui commence à être connu des adversaires aussi, surtout le Racing. Il y a deux choses, manque de taille, ça c'est une chose, manque aussi de coordination, de placement, de lecture des adversaires.
Il y a plusieurs aspects. Quand tu sais que tu as un déficit de taille, tu essayes de le compenser différemment. Tu peux positionner les joueurs en zone, ça permet de les responsabiliser différemment, ou en mix, en mettant 2 ou 3 joueurs sur de l'individuel, sur des grands gabarits, et puis les autres positionner plutôt en zone, dans la surface. Est-ce qu'il y a une bonne recette? Déjà, il y a un aspect qui est important, c'est l'envie de défendre. Je pense que tu parlais de Panichelli, je ne sais pas combien il a renvoyé de corner quand on en subissait. Ben oui. Je pense qu'il y a une notion d'envie et très honnêtement, le gardien doit aussi pouvoir nous permettre de souffler un petit peu, surtout qu'il est grand et puis il est imposant. Donc moi c'est cet aspect-là, c'est-à-dire il y a une notion tactique où on devra mettre peut-être un dispositif, parce que c'est de la zone ou de la mix, voilà. Et puis il y a un aspect aussi chercher des valeurs, plutôt la notion de combattant qui est aussi importante dans ce type de match. Hein.
C'est un point qui était un peu en sous-marin depuis le début de saison, qui explose un peu au grand jour depuis un mois quand même. Anto, là, c'est difficulté sur coup de pied arrêté. On pense au coup de tête de Lejeune, là, sauvé par Penders, qui est une balle de 2-0 énorme pour le Rayo. Enfin, ça sera un gros danger, même si le Rayo en aura peut-être moins au match retour qu'il n'a pu en avoir chez lui. Mais c'est un point qui t'inquiète.
Oui, tout simplement, mais je pense que tout a été dit. En fait, c'est effectivement Panichelli et Emega renvoyaient énormément de ballons sur corner. Il y avait Sarr également.
Il y avait la taille aussi. Hein.
Et il y avait la taille. Et là, on se rend compte, sur le but qu'on prend au Rayo, El Mourabé, il fait une tête un peu timide où il est derrière le joueur. À aucun moment, il cherche à passer devant, mais peut-être parce qu'il n'est pas habitué non plus à jouer de la tête. Et Nanashi a complètement oublié le jeune sur la tête. Et je pense que ça, un peu comme le troisième manqué de Mayence là-bas, c'est le tournant du match, cette tête-là. C'est ce qui va nous faire gagner 2-0 le match et qualifier. Cette tête manquée, là, ils vont s'en souvenir longtemps du côté de Rayo Vallecano. Après, moi, ce que j'ai peur aussi, c'est l'attitude sur le match. Est-ce qu'on va mettre tout de suite l'intensité qu'il faut, comme face à Mayence, ou est-ce qu'on va commencer à gérer,
se laisser endormir comme contre Nice ou d'autres matchs.
Et se laisser endormir contre Nice ou d'autres matchs, et derrière commencer à plus jouer en équipe mais par des actions individuelles, de voir des N6O dribbler tout le monde et pas faire la bonne passe, ou Barco me mettre des ballons en profondeur pour un mec qui a jamais fait un appel, et c'est ça qui me fait peur. Contre Mayence, on n'a pas douté. Pourquoi? Parce qu'à la 30e, il y avait déjà 2-0 de l'autre côté et l'ensemble des rencontres
était lancé.
J'ai peur que, même si Steki a un énorme mental du côté du Racing, j'ai peur que le temps joue en notre défaveur. Il faut absolument, c'est pour ça que j'insistais sur ce premier quart d'heure qui est décisif, c'est vraiment ce premier quart d'heure, 20 minutes, dans cette rencontre, qui va lancer le match et presque dicter notre destin.
les 2-0, qui, c'est un score qui qualifierait le Racing aussi, Greg, qui nous regarde chacun dit, lui, le Racing va gagner 3-0, ils savent très bien, les joueurs, parce que ce match est le plus important, surtout avec la désillusion de la demi-finale ratée contre Nice, ils ne voudront pas une deuxième désillusion. Est-ce que, je ne sais pas si ça, si ça suffit. On va parler de cette équipe espagnole hein, qu'on a découvert, qui a été efficace, sans être forcément brillante, mais en tout cas qui a montré les qualités qu'elle voulait, d'une équipe espagnole qui arrive lancée à la méno, parce que le Rayo s'est imposé, lui, ce week-end, en déplacement du côté de Retafe, le 7e, tout de même de Liga, ce qui est un succès qui permet, on va le voir, aux Espagnols de se mettre désormais à 8 points, hein, 8 points de la zone rouge du FC Séville, qui est le premier relégable, puisqu'il y a les trois derniers descendent directement en Liga, il n'y a pas de barrage. Le Rayo, Dominique, c'est 3 victoires sur les 4 derniers matchs, pas de but encaissé aussi d'ailleurs, sur les 3 de leurs 4 derniers matchs, eux clairement sont en confiance, oui. Ou tu sens cette équipe, elle a un peu le même problème que le Racing, elle est complètement inexpérimentée à ce niveau de compétition.
Et effectivement, mais comme tu dis, elle arrive lancée avec un nettement meilleur rythme que le nôtre. Elle ne se pose pas de questions parce qu'elle joue les matchs. Et là, elle a assuré, tu l'as dit, son maintien. Son maintien est acquis. Donc ça prouve les objectifs qu'ils avaient. Mais eux, ils sont en toute humilité. Ils sont contents de leur saison. Ils ne sont pas du tout entre deux chaises en se disant on aurait pu être cinquième, comme l'a dit Gary O'Neill. Vous inquiétez pas, l'année prochaine, on jouera à la cinquième place. Pour moi, c'est ça le danger. C'est ça le danger, c'est une équipe qui est historiquement aussi placée à un pas d'un truc qu'ils verront peut-être plus jamais non plus. Hein. Donc ils sont exactement dans le même contexte. C'est des Espagnols qui ont cet état d'esprit pour être des compétiteurs. Ils ne vont pas se faire bouger. Alors tu me dis, Nanasi, il s'est fait prendre, mais est-ce que c'est logique de mettre Nanasi sur le jeune qui a presque 2 mètres mais qui mette. Si t'as pas Nanasi et si t'as pas Panicelli, si t'as pas ces joueurs qui sont des guerriers, voilà, c'est quand même très compliqué. Donc moi j'ai peur, je suis à fond derrière le Racing, j'espère qu'on va avoir 2 Français en finale de Coupe d'Europe, ce qui serait fabuleux. Mais il y a un adversaire qui est comme nous aussi tout près d'un exploit historique et qui va pas venir en victime expiatoire pour regarder le public chanter, surtout qui s'y chante pas pendant un quart d'heure, parce que comme tu dis, l'entame elle peut être. Moi j'avais peur contre Mayence, ça s'est bien tourné. Au bout d'une demi-heure, on gagne 2-0. Oui. Parce que tout à coup, mais pendant le premier quart d'heure, on n'était pas très dangereux et on avait du mal à trouver une brèche. Parmi les trois derrière, les trois Golgothes qu'il y avait derrière, Enciso n'existait pas. Et tout à coup, il y a eu le but, et un quart d'heure après, le deuxième but, et après, il y a eu ce football en mouvant qu'il faut absolument qu'on arrive à faire.
La confiance, c'est que cet aspect mental, Mounir, il va être très important, parce que le Racing, pareil, est complètement inexpérimenté. Il va falloir être patient. Le temps, je ne sais plus lequel d'entre vous disait, le temps va jouer contre le Racing aussi, mine de rien. Ouais, c'est plus un match à pression aussi. Enfin, si je rembobine, à Mayence, sous la pression d'un quart de finale, le Racing s'est troué sur un match à pression d'une demi-finale de Coupe de France contre Nice. Mm-hmm. Il s'est troué lors du match aller. Est-ce que le paramètre, Mayence, le retour dans le casse.
Mais prenons le Rayo qui est allé à l'AEK. Mm-hmm. Ils ont pris le bouillon. Mm-hmm. Quand ils étaient là-bas,
ils avaient gagné les 3-0, ils ont gagné 3-0. Ils étaient
vraiment en difficulté. On parlait du côté public. Là, ils étaient dans un chaudron là-bas. Il faut retrouver une méno en fusion jeudi soir où tous les ingrédients doivent être réunis pour pouvoir renverser la vapeur. Mais je pense que le Rayo, on parlait tout en début d'émission, juste avant l'émission, pardon, de la proximité des spectateurs au Rayo. Tu sentais qu'il y avait une pression même physique. Il y avait même une pression physique. Donc il faut qu'on retrouve un peu cet aspect-là à la méno pour qu'ils se sentent pas, enfin quand je dis chez eux, mais qu'ils se sentent pas à l'aise et qui commencent à trembler comme ils l'ont subi à l'AEK à Athènes.
Mmh. Au quart de finale, match retour de leur quart de finale. Quel genre de match tu t'attends? Enfin évidemment un bus espagnol dans la surface de la méno ou tu peux les sentir plus ambitieux, venir chercher un petit peu cette équipe du Racing?
En fait, je dirais que c'est le Racing qui va dicter le match. Si le Racing est entreprenant et prêt d'entrée avec un public derrière, je pense qu'ils vont défendre, ils vont mettre le bus et ils vont essayer de jouer les contres. Et on parlait des coups de pied arrêtés, potentiellement ça peut nous jouer des tours, donc il faudra éviter aussi cet aspect-là. Si le Racing attend et gère en bon père de famille le temps de pouvoir se lancer, etc., ça peut-être nous mettre en difficulté parce que c'est aussi des manières de ballon, ils savent très bien jouer au foot aussi quand on leur laisse les espaces.
Tu as raison. La, la différence, c'est un but, mais c'est énorme.
C'est énorme.
Quand tu es mené 2-0, tu commences pied au plancher, tu veux marquer le premier but le plus vite possible. Quand tu es mené 15-0, tu te dis j'ai un peu le temps.
J'ai le temps.
Et cette différence, elle peut être énorme.
C'est de la sérénité ou c'est un faux confort?
C'est un faux confort.
Ouais.
Je pense qu'il faut marquer le premier but le plus vite possible. Parce qu'après, tu mets le public derrière, tu allumes le feu.
Comme scénario catastrophe, si le Racing encaisse le premier, comment tu vois la suite?
Historiquement, sur certains matchs, on pouvait être mené 2-0 et gagner 3-2, un peu comme à Lorient. Donc cette équipe-là a quand même une force mentale. Le problème, c'est que on manque de moins en moins de leaders sur le terrain, leaders techniques, mais aussi leaders.
C'était la relance suivante qui va porter un petit peu cette dynamique au cours du match.
Je pense Doucouré, peut-être Barco, mais suivant son mental, parce que là, je rejoins Doumé. Des fois, t'as l'impression qu'il a pas envie, et des fois, il est flamboyant.
Et puis des fois, il joue un peu pour sa tête, et puis il veut tirer les corners ou les coups francs à la place des autres. Enfin, est-ce qu'il a un rôle? C'est un leader technique, mais est-ce que c'est un leader pour le groupe?
C'est un peu pareil pour Enciso. Des fois, il veut dribbler tout le monde, et des fois, je l'avais dit sur une émission, à la 60e, je le sortais, à la 75e, je l'embrassais, parce que pendant 15 minutes, il était totalement personnel, jouait individuellement, et pendant 15 minutes, il a fait un jeu d'équipe. C'est déjà à Gary O'Neill de bien préparer le match. Peut-être, et je leur dis, Marc, comme il avait fait avec Guy, avec l'histoire de Laporte, de remettre un peu l'importance de cette demi-finale. Marc Keller, pardon. Et pour eux, individuellement, et pour la ville de Strasbourg et l'histoire de Strasbourg, de sensibiliser les joueurs, qu'est-ce que ça représente pour les 30 000 ou les 400 000 ou le million d'Alsaciens qui va suivre ce match assidûment. La clé, elle est là, le premier quart d'heure est là, et il ne faut pas oublier, je voulais ajouter, que le terrain sera plus grand qu'au match aller. Le terrain du Rayo est très très court, pas très large.
Pile aux limites UEFA.
Pile aux limites UEFA. Là, le stade de la Méno a des grandes largeurs. Nous, on aime bien jouer dans les espaces, aime bien jouer dans les intervalles. Alors, ils ont gagné à Retafe, qui est aussi un grand stade, malheureusement. Il y a toujours des contre-exemples à ça. Mais voilà, le Rayo réussit pas à l'extérieur, réussit à domicile. Ils ont battu l'Atlético 3-0, ils ont fait deux fois match nul contre le Barça et le Real.
J'ai regardé, en fait, ils sont 11e de Liga sur les résultats à l'extérieur. Je pense qu'il y a une fausse impression de dire qu'ils prennent tous leurs points à domicile. Ils sont sur le classement extérieur de la Liga, ils sont 11e, alors qu'ils sont 13e, je crois. Donc, je crois qu'au final, ils prennent plus de points. Enfin, ils ont un meilleur classement, en tout cas, à l'extérieur qu'à domicile.
Bon, en tout cas, tu as tué ma stat, mais j'avais mal révisé, c'est de ma faute. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même des facteurs qui me font dire que sur ce match-là, tout va se jouer, comme le dit Doué, dans le premier quart d'heure. Et effectivement, il ne faut pas se dire on a le temps. En fait, tu n'as pas le temps, c'est une demi-finale. Au match aller, tu as le temps.
Et ça repassera, on ne sait pas quand.
Donc, il faut bien avoir conscience des joueurs, jusqu'aux supporters, jusqu'à tout le monde, qu'en fait, c'est un peu comme une comète, ça passe une fois tous les 100 ans, et c'est jeudi soir.
Il faut être au rendez-vous, quoi. Votre facteur X, messieurs, pour ce match, quel est le joueur ou l'action, ou qu'est-ce qui peut être le déclic, ou en tout cas l'événement qui fait basculer ce genre de match, Dominique?
Ouais, c'est très compliqué. Le foot a cette folie de pouvoir générer des surprises incroyables, et donc il faut que le public soit le facteur X. Pour moi, on le voit, c'est décisif à tous les matchs. Je veux dire, on le parle du Rayo, on parle du retour à l'AEK. Je veux dire, en Grèce, c'est de la folie furieuse. Même à la Méno. Donc, c'est le fait de jouer à domicile qui doit pouvoir être le facteur X qui fait qu'on fasse quelque chose d'historique et qu'on soit en finale.
Venir à ton événement déclencheur, qu'est-ce qui peut faire basculer cette rencontre?
Je pense que Doumé a tout dit. Il y a cet aspect public. Il y a, je pense, la tendance. On va avoir une tendance sur le premier quart d'heure. On verra. Donc si on est agressif, si on presse, on emmènera tout le monde.
Et on l'a vu dans les deux cas. Est-ce que Bayern, ce que tu disais, contre Nice, on était endormi dès le début.
C'est ce qui s'est passé justement à l'AEK. L'AEK, ils ont pris le bouillon parce que en fait le public, tout le monde était transcendé. Et c'est ce qu'il faut jeudi soir, très honnêtement. Donc le premier quart d'heure donnera une tendance.
Est-ce que le coach, le coach, il y a la partie évidemment technique, tactique et tout, c'est un coach aussi qui insuffle ça quelque part aussi pour booster ces gars au moment où ils vont sortir.
Il y a une notion de leader quand même. Il y a une notion de leader qui est importante. Je pense que le coach doit être entraînant dans ce genre de rencontre. Doumela a connu. Enfin, on essaie de transcender nos gars. Alors parfois avec des messages perso, parfois avec des bouts d'histoire. Enfin, c'est important quand même d'appuyer sur certains éléments qui permettront aux joueurs
ça
de,
parle encore
de
des très jeunes joueurs, ça.
Oui, ben oui, oui, ça parle. Ouais, ouais, bien sûr, ça parle à tout le monde. En fait, en fait, cette communication, elle est universelle pour moi.
Et le levier le plus important, c'est le match raté contre Nice en demi-finale. Pourquoi ? Ouais. Parce que même si le public doit être décisif, c'est les joueurs qui doivent mettre le feu au public. C'est pas l'inverse. Ils peuvent faire la grève pendant 15 minutes, ils l'ont fait contre Mayence. On a quand même gagné 4-0. Parce que c'est ça le message de l'entraîneur. L'entraîneur, il doit arriver à faire en sorte que la pression, qui est énorme, parce que tu es à un pas de la finale de Coupe d'Europe, ce qui est du jamais vu, qui est de l'historique, Anto le dit assez souvent, ne soit pas un fardeau, comme l'a été la demi-finale contre Nice, mais soit le facteur risque qui fait qu'ils vont rentrer sur le terrain comme des morts de faim, qui vont y aller, créer du mouvement, faire un match de folie comme on en voit ces derniers temps, pas plus tard que hier soir, où il n'y a pas de réflexion, il n'y a rien du tout, quitte à ce qu'on prenne un but, on va en mettre deux ou on va en mettre trois, et alors le public, tu l'as derrière toi. Et c'est là où, le public, c'est le facteur X déterminant qui va faire en sorte que tu retrouveras les ressources pour tenir ton rythme alors que tu es cuit, mais tu vas pousser encore au-delà de tes limites pour faire en sorte que l'exploit soit là.
Pour conclure sur ce sujet, tu as évoqué déjà le rôle évidemment du public. Ce message, il peut porter. Tu sens cette équipe capable de se concentrer, comme le disait un téléspectateur, un peu cramé, un peu à bout et tout, comme il faut. Il y a quelque chose. Ce genre de match doit transcender un groupe, une équipe, chaque joueur.
Oui, mais le public a cet aspect dopant pour les joueurs, aspect adrénaline, et à l'inverse, peu indirectement, comme au basket sur les lancers francs, quand tu siffles les adversaires, totalement te déconcentrer ou te faire sortir du match. Donc c'est vraiment le facteur clé, et comme vous le disiez, c'est ce premier quart d'heure avec cette capacité au Racing de se créer une occasion. Je reprends l'exemple face à Crystal Palace. On a été dominé tout le premier quart d'heure. On a subi, mais on voyait que les joueurs mettaient le pied, allaient à l'engagement. On voyait qu'il y avait... On le voit, en fait... en tant que spectateur, si les joueurs y sont ou pas, dès le début, face à Nice, on a senti un Racing, j'appelle ça match amical ou groupe élite, quoi. On gère un peu, on verra, et de toute façon, on sait que ça va passer. En fait, on ne sait jamais que ça va passer. C'est quelle mentalité tu mets dans le match. Et surtout, ben, je le dis, vraiment, ce premier quart d'heure, si tu as une première occasion dès la cinquième, derrière, le public va suivre, même si tu subis 10 minutes, les UB vont prendre le relais machine, et le stade est lancé, quoi. Ouais.
T'as raison, le facteur X, c'est l'état d'esprit que tu mets dès l'entame.
Allez, on va faire une courte pause avant de conclure cette émission. Petit coup d'œil dans le reste de l'actu sportive alsacienne de ce week-end. Regardez.
Ils la tiennent enfin, cette victoire cruciale qui les rapproche un peu plus du maintien. Relégables à l'aube de cette 26e journée de Star League, battue lors de ses 9 derniers matchs, Célestas s'est repris au meilleur des moments en battant Nîmes à domicile. Une victoire méritée, le SHB a mené toute la rencontre, portée par sa recrue portugaise Pedro Portela, auteur de 12 buts vendredi soir. Les Alsaciens l'emportent 33-28 et sont désormais 12e avec un point d'avance sur la zone rouge. Prochain rendez-vous dimanche face au PSG. Un duel de haute volée, une prolongation irrespirable et un Marcus Kean auteur d'une prestation XXL. Mais la SIG a fini par craquer contre Monaco. Au Rhenus, les deux équipes se rendent d'abord coup pour coup. Les deux premiers cartons en faveur des Alsaciens, les deux suivants pour la Roca Team. Strasbourg arrache la prolongation dans les derniers instants, 103 partout, porté par les 34 points de Kean. Mais le collectif monégasque s'est finalement montré le plus fort. Défaite 114-118 de la SIG. Les Alsaciens toujours en course pour les play-off à deux journées de la fin de la saison régulière. L'Aza battu par hier Toulon et éjecté du top 10. À domicile, les Alsaciens ont concédé leur quatrième défaite sur les cinq dernières journées, renversée par les Varois dans les dernières minutes. Malgré les 25 points, 8 rebonds et 5 passes de Gilles Noël, Grisouffel s'incline 89-92. Il faudra réagir à Chalon vendredi pour tenter d'accrocher la qualification en play-in.
Je l'ai pas vu. Le gars de hier.
Alors petit correctif, à savoir l'Aza est 9e du coup après l'ensemble des matchs de ce week-end et donc encore dans le top 10 puisque 9 et 10 jouent des play-in pour se qualifier pour les play-offs. C'est pour refermer la page basket. On va passer au temps additionnel du Cop Racing de ce lundi. Et ben c'est tout de suite. Il nous reste 4 minutes chrono pour conclure, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Anthony, ton temps additionnel, ton coup de cœur de cette semaine, de ce lundi.
Ah, c'est peut-être cette ferveur autour de cette demi-finale, tout ce qui se passe. Qu'on sent monter. Et même moi, j'en ai l'émotion en parlant parce que c'est un truc qu'on n'imaginait jamais. Tu vois, on jouait sur la PlayStation. Voilà, tout simplement. Et je pensais continuer à le jouer sur la PlayStation. Et peut-être, avant de mourir, une fois jouer la Ligue des Champions ou aller à un match de Coupe d'Europe sur une coupe, un truc comme ça. Mais de là, de se dire qu'on est en demi-finale et qu'on risque d'aller en finale et de la gagner, même si je le dis depuis le début, parce que j'en reste intimement persuadé, mais c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est pas courant, pas pour nous. Pour Paris, maintenant, ils commencent à avoir l'habitude. Pour Lyon, il fut un temps, ils avaient l'habitude. Nous, c'est pas courant. Et je sens quand même qu'il y a quelque chose autour qui est en train de se passer. Tout le monde en parle. On parle de Strasbourg en bien. C'est bien. On a conscience maintenant. Strasbourg fait partie du paysage européen. On n'a pas l'habitude non plus, mais Strasbourg fait partie de ce paysage-là. Voilà. Donc fier de nos joueurs, fier de ce qu'ils ont fait. Mais pour être très, très fier... passer jeudi et là...
passer pour aller au bout et aller en finale. Ça sera le 14e match de la saison européenne du Racing. Une vraie épopée. Dominique, ton coup de cœur de cette semaine.
Moi, j'ai élargi au foot en général. Hier, on a vu un match exceptionnel hier au soir en fin de la Ligue 1 avec Lyon-Rennes. Hein, on se croyait les anciens à boire Hollande, la Hollande avec le but de Van Basten, magnifique. Et surtout, deux jours avant ou trois jours avant, le match du siècle avec PSG-Bayern. Quand des entraîneurs, grâce à la volonté des entraîneurs de vouloir gagner avec un but de plus que ce qui était l'adage du football depuis que les Italiens ont inventé le catenaccio, c'était prendre un but de moins que l'adversaire. Et ça te donne des matchs comme ça où, que tu sois parisien ou pas, que tu sois marseillais ou allemand, on a pris un plaisir fou devant un match exceptionnel.
Tu ne boudes pas ton plaisir. Mounir, pour terminer, ton coup de cœur de ce lundi soir.
J'ai un coup de cœur partagé avec Dominique, c'est le match de la semaine dernière.
On est parmi.
Bah, en tout cas, c'est pour ça qu'on aime le foot, en fait. Parce qu'on a deux philosophies de jeu qui est portée vers l'avant, où on prône le jeu, les individualités s'expriment pleinement. Pourtant, on dit que le foot est de plus en plus individualiste, etc. Et puis finalement, les individus arrivent à se retrouver dans un jeu d'équipe. On a trouvé ça, enfin, c'était exceptionnel. Donc il y a cet aspect-là. Donc ça, c'est mon coup de cœur. J'ai aussi un petit coup de gueule. C'est le coup de gueule, c'est la VAR, en fait. La VAR, ça doit être un objet de décision pour qu'il n'y ait pas de litige. Mm-hmm. Et en fait, elle en crée de plus en plus des litiges. Ben, tous les matchs européens, il y a un sujet VAR. Et à partir du moment où elle permet trop d'interprétations, c'est qu'à un moment, faut l'arrêter. Enfin, quand je dis faut l'arrêter, il y a un arbitre, il a le droit de faire des erreurs. Mm-hmm. Mais quand on voit qu'on est obligé de revoir 13 fois le ralenti d'une action...
Ben c'est que parfois il faut le 13e pour se faire l'idée, on perd
l'essence
et ça dure surtout, enfin ça hache, c'est le
côté VAR qui doit normalement être un aspect de décision où il n'y a pas de débat, ben créer du débat sur des situations, voilà, c'est mon coup de gueule.
Vaste débat, puisqu'on parle effectivement d'élargir encore à certaines situations de jeu pour que ce soit encore plus complet. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été sur le plateau de ce COP Racing. Le rendez-vous, on vous le rappelle bien sûr, jeudi soir pour Racing, 21h, émission exceptionnelle sur BFM Alsace dès 20h30. On vous fera un avant-match. Débrief à la mi-temps après match, le match en direct commenté sur notre antenne. Anto, rendez-vous radio, évidemment, mardi soir.
Demain soir, ouais, 21h-22h sur ABS. On va décortiquer tous ces matchs et puis vous donner les clés de cette qualification en finale.
Venir fin de saison avec le FC Geispolsheim. Les voisines du basket ont performé. Elles qui montent en Ligue 2. Il faut faire aussi bien.
On les félicite. On va essayer. On va essayer de performer aussi sur la fin de saison. On a encore un championnat à aller chercher. On a une finale de Crédit Mutuel à jouer en fin du mois. Donc une belle saison.
Belle saison du côté de Gaspo pour les footeux et pour les filles du basket. Dominique, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce lundi soir.
J'ai un peu la tête à Châteauroux. Et si je souhaite à Sochaux de monter, je leur souhaite de perdre contre Châteauroux.
Le week-end prochain, pour que Damien Haute, qui a repris Châteauroux et qui essaie
Dijon
de
s'imposer avec Dominguez, ils ont déjà montré le chemin.
Ils ont un bon calendrier, effectivement. Ils viennent de gagner chez le leader, ils vont chez le deuxième. Ils reçoivent le deuxième ce week-end.
Donc voilà, pour que tout le monde soit d'accord et que le statu quo persiste, ils gagnent aussi Sochaux.
Tout le monde sera content.
Qui fêtera la montée le week-end d'après.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir été sur le plateau de ce Cop Racing. Je donne rendez-vous jeudi soir à 20h30 pour vivre cette demi-finale historique pour le Racing. Merci à Ambre Djali qui était aux manettes de cette émission. On se retrouve bien sûr lundi prochain, jeudi soir d'abord pour ce match, et lundi prochain comme d'hab dans Cop Racing. Excellente semaine à toutes et à tous.